Bienvenue dans le Paris Central Show. On est avec Recobar, on est avec Tonton. Aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain et comment la victoire de City va affecter le mercato du Paris Saint-Germain. J'espère que vous allez tous bien. Pardon pour les 5 minutes de retard. On va commencer tout simplement avec la finale d'hier soir. Recobar, Tonton, quel joueur vous a le plus marqué sur la finale et quel joueur, si vous deviez en choisir un, prendriez-vous pour le PSG en sachant qu'il y en a peut-être deux qui sont déjà en cours de négociation avec nous.
Moi, c'est pas vraiment un joueur, moi, c'est plus un secteur, c'est le milieu de terrain. Parce que pour moi, le milieu de terrain, c'est peut-être une phrase bateau, mais ça reste la base du football. Le milieu de terrain permet à ta défense d'être plus sereine, d'être plus solide, te permet aussi de prendre l'ascendant sur l'équipe adverse, même si évidemment, ça reste aussi collectif. Mais ton milieu de terrain, c'est la base. Si tu as trois milieux de terrain qui sont compatibles avec le jeu que tu veux mettre en place ou qui ont les capacités de s'adapter aussi à ton adversaire et de les mettre en danger, le match, il peut tourner facilement en ta faveur, on va dire. Et je pense que sur cette finale-là, tu prends le milieu de terrain du PSG, tu le mets à l'Inter. L'Inter perd la finale 3-0. Tu prends le milieu de terrain du PSG, tu le mets à City. L'Inter bat Manchester City. Donc voilà, pour moi, ça fait vraiment la différence. Tant sur le fait qu'ils peuvent solidifier une défense, tant ils peuvent aussi faire la différence devant et aider les attaquants. Je pense que c'est vraiment le milieu de terrain qui fait la différence. Et encore une fois, c'est aussi ce supplément d'âme. La preuve, c'est que le but, il vient d'un Rodri. Et souvent, dans les finales, ce n'est pas forcément les grandes stars et les attaquants qui font la différence, mais plus ces milieux de terrain qui sont capables de venir marquer. Et ça a été le cas hier soir avec Rodri.
Et toi, Tonton?
Moi, ça dépend si tu me dis celui que je veux ou celui qu'on peut. Parce que ça fait quand même beaucoup de différence dans le sens où, si je ne me mets pas de barrière, logiquement, même si ce n'est pas celui qui m'a le plus marqué de la finale, c'est Haaland que je prends parce que le PSG a besoin d'un neuf, il a le profil que le PSG recherche, il est grand, il est costaud, il peut jouer pivot, c'est une machine à but. Donc logiquement, moi j'ai cherché lui, mais comme c'est pas réalisable, je vais plus me tourner au final vers un Brozovic ou un Bernardo en fait, dans le sens où Bernardo peut être ce gars qui peut jouer sur l'aile droite, il peut jouer milieu de terrain dans le milieu à 3, il peut jouer en double pivot, il peut jouer numéro 10. Il sera bon partout, en fait, ce joueur. Donc, il peut apporter pas mal de solutions. Sinon, j'aurais dit Brozovic dans le sens où, même si on a recruté Ugarte, Brozovic, c'est un vrai 6 comme on en a besoin au Paris Saint-Germain. Et hier encore, je trouve, il a fait un super match. Cependant, s'il faut trancher, ça va être Bernardo parce que finalement, on a déjà recruté Ugarte.
Quand tu regardes Haaland sur demi-finale finale et même la finale de FA Cup, au final, il est absent. Et ceux qui font la différence, c'est Gundogan, Rodri. Bon, KDB, il est sorti blessé, mais c'est Rodri et Gundogan qui font la différence. Et moi, si je dois en choisir un, ce serait Gundogan.
Alors, j'entends ce que tu dis, mais par rapport à Haaland, non pas que je suis le plus grand fan du joueur, je fais pas ça en mode propagande du joueur, mais s'il n'a pas marqué sur ces matchs-là, c'est parce que finalement, il a fait ce qu'on attendait de lui en fait, dans ce genre de match et qui manquait à Pep avant. C'est ce joueur qui mobilise la défense. Je veux dire, hier, pourquoi Rodri marque ? Est-ce que Rodri, il est pris au marquage ? Non, il est complètement seul parce que finalement, c'est pas lui qui est pisté. Je veux dire, les mecs qui sont au marquage sur Haaland, ils l'ont pris tout le match, ils l'ont empêché d'exister. Et le fait d'être concentré sur Haaland, c'est aussi ça qui a permis à un moment à Phil Foden d'avoir presque marqué le deuxième but aussi. Donc Haaland, il a quand même son utilité dans ce genre de match parce que le fait qu'il mobilise des défenseurs, il va libérer des espaces pour les autres. Et en fait, c'est ce genre d'attaquant qui a besoin de Mbappé au final, au PSG, tu vois.
Non, c'est un fait, mais je pense que tu vois, aujourd'hui, si tu prends Haaland, tu le mets dans le PSG, franchement, ça ne va rien changer. Alors que si tu prends…
Alors, c'est qui pas Gundogan, construit, toi.
Pour moi, il va y avoir une vraie différence, je pense.
Oui, Gundogan, oui, bien sûr, ça va être ce milieu. Mais vas-y, Nix.
Bon, spécial big up à Laurent, quand même, qui reste avec nous, parce qu'on l'avait en tant que Paris United, en vrai.
C'est vrai.
Il y a les replays, de toute façon, vous pouvez aller voir l'autre en replay. Après, il n'y a pas de souci, c'est la famille, il n'y a pas de souci. Ok. Deuxième sujet, on était parti sur… Le dossier Lukaku, parce que on en avait parlé la semaine dernière, il y avait pas mal de gens dans le chat qui étaient plutôt ouverts à une arrivée de Lukaku au Paris Saint-Germain cet été. On va relancer cette question juste par rapport au match d'hier soir.
Pire moment.
Et je suis désolé, Lukaku, il mange la feuille de match. Normalement, déjà, si l'Inter, ils perdent, c'est en grande partie à cause de lui, parce que Manchester City, j'ai regardé les expected goals par exemple, l'Inter, ils sont à deux fois plus.
Ils sont à deux fois plus. Ils ont tiré deux fois plus déjà l'Inter.
Donc, vous changez d'avis sur le dossier Lukaku ou qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, Tonton.
Bah, en fait, ça va dépendre dans le sens où pour moi, Lukaku, ce n'est pas un joueur prioritaire de base. C'est-à-dire que moi, comme je l'avais dit, tu as d'autres joueurs qui sont prioritaires dans le sens avant lui, dans la liste, je passe Kane tout en haut, même si ça va être très difficile d'aller le chercher. Je place ensuite Osimhen et je place ensuite Vlahovic. Si vraiment tu peux faire aucune de ces pistes, excuse-moi, mais je préfère encore avoir Lukaku titulaire que Marcus Thuram, ça reste personnel. Mais c'est vrai que le match de hier, il joue pas en sa faveur, tu vois. Genre, c'est vraiment le pire moment, je pense, pour essayer de le débattre. Donc, je te dis pas qu'il est prioritaire, mais cependant, si tu ne fais aucune des pistes que je viens de citer précédemment, je préfère quand même avoir lui, tu vois, qu'un Ekitike ou un Marcus Thuram à la pointe de l'attaque l'an prochain au PSG, tu vois.
Rico. Bizarrement, on avait fait un sujet Lukaku vs Vlahovic. Bizarrement, il y en a beaucoup dans le chat et dans les commentaires qui nous disaient Lukaku. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont changer d'avis, bizarrement. En tout cas, pour moi, cette finale, elle est aussi à l'image de ce qu'il fait très souvent, parce qu'il y a eu cette énorme saison à l'Inter, sa première saison à l'Inter, certes, mais tout le reste, la plupart du temps, ses transferts, c'est un flop. Ou alors, il va avoir une petite saison, une petite, mais c'est même pas une petite saison, c'est un petit moment dans la saison où il va marquer quelques buts, où il va vraiment être bouillant. Mais sinon, voilà, au niveau régularité, et même dans les grands matchs, Lukaku, il est pas là. Donc, comment on peut préférer un Lukaku à un Vlahovic? Moi, je comprends pas. Et après, je suis d'accord avec Tonton. Oui, si vraiment, tu as le choix entre Ekitike, Marcus Thuram ou Lukaku, évidemment, pour ton titulaire, tu vas aller chercher Lukaku. Mais quand sur le marché, tu peux avoir des Kane, des Osimhen, des Vlahovic, même des Gonçalo Ramos et d'autres, pour moi, ça passe largement avant Lukaku. Et hier, c'est clair qu'il a quand même bouffé la feuille.
Pas le seul après, excuse-moi, mais on a le droit de
Non,
parler de
mais.
Lautaro, cet assassin aussi,
Le
qui préfère tirer sur
Oui.
Ederson que de le faire la passe à Lukaku.
Oui, à ça
Même pas
aussi.
à Lukaku, en retrait, parce que Lukaku, il était pris, mais en retrait,
Mais
au point
même
de
Lukaku et
après
Brozovic, il avait
à
deux
l'entrée de la
solutions.
surface, ouais, carrément,
Il
carrément.
avait deux solutions, pas une, il en avait deux. Donc là, c'est pas mal aussi, lui, hein.
Ok, on va faire une petite parenthèse hors match d'hier soir, puisque c'est entre guillemets la ligne rouge du live d'aujourd'hui. Alors, on va juste parler du dossier Icardi, parce que il semblerait que l'Arabie Saoudite soit sur le point, ou en tout cas, Nasser a eu des discussions avec un président de club saoudien, pourrait, entre guillemets, nous sauver dans le dossier Icardi, parce que toute l'année, on a parlé de Galatasaray et de clubs italiens qui seraient prêts à mettre 8 millions sur Icardi. Chose, un joueur qu'on a acheté plus de 70 millions, ce serait totalement honteux. Et là, on apprend que peut-être l'Arabie Saoudite viendra nous sauver dans le dossier et serait plutôt prêt à mettre 20-30 millions d'euros, chose qui est déjà beaucoup plus acceptable sur le flop Icardi. Vas-y, Rekoba.
Bah ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, en vrai, même si l'Arabie Saoudite pourrait surpayer, c'est quand même son prix au vu des performances qu'il a produit en Turquie, même si le championnat, évidemment, c'est pas dans les 4, 5, 6 grands championnats. Mais ça reste un très bon attaquant et il est encore dans la force de l'âge. Quand il est en confiance, il est très bon. Et quand tu vois la Roma qui propose 8 millions, évidemment, c'est une insulte pour nous et pour lui. Évidemment qu'on devrait normalement le revendre à au moins 15-20 millions. Le problème, c'est que comme il a un énorme salaire, il y a pas mal de clubs, dont Galatasaray, qui ne peuvent pas vraiment s'aligner et qui, du coup, te paieront moins en indemnité pour pouvoir prendre en charge son salaire. Maintenant, si l'Arabie Saoudite vient vraiment, évidemment que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et mine de rien, bah, l'Arabie Saoudite, avec les 200 milliards, je crois, injectés, il commence quand même à y avoir pas mal de joueurs qui sont pressentis là-bas, qui acceptent et tout au fur et à mesure. Et finalement, ça peut en amener encore d'autres. Donc, bah, Icardi pourrait en faire partie.
Et toi, tonton?
Bah, moi, il me semble, et j'ai peut-être mal compris, mais j'ai cru comprendre que c'était Nasser qui essayait d'obtenir entre 25 et 30 millions pour Icardi. Après, je ne sais pas si c'est le prix que voulaient poser les Saouds,
Il y
mais
aura un
en
accord de
soi,
principe, apparemment.
bah, si, ouais, voilà, j'allais dire, si tu as cet accord à hauteur de ce prix-là concernant Icardi, c'est inespéré. Ouais. Comme tu as dit, Nix, moi, je m'attendais à ce qu'il parte à la Roma, en Italie ou en Turquie, qu'on galère, qu'on fasse des concessions au niveau du prix pour son salaire. Et là, en fait, bah, le joueur niveau salaire, je pense qu'il ne sera pas trop perdant s'il signe chez les Saouds. Bon, est-ce que lui, il a envie d'y signer? Ça, c'est un autre problème. Je ne sais pas, mais peut-être que l'offre pourrait le convaincre. Mais en plus, on sait que le PSG, ça a déjà du mal à vendre. Si tu arrives à obtenir autant pour un joueur, autant en difficulté chez nous, bah tant mieux, en fait. Je vois pas pourquoi on le retiendrait, dans le sens où on sait que le PSG va faire des investissements, et notamment au poste d'Icardi. Bah, si tu peux tirer un certain prix d'Icardi, c'est cadeau quand même.
Non, mais je pense qu'a priori, il n'y aura pas trop de problèmes pour le revendre parce que je crois qu'il y a même Fulham qui est dessus Et Fulham, ils ont les moyens de mettre une indemnité plus de payer son salaire. Donc, a priori, vu la saison qu'il a fait, je pense qu'on n'aura pas de souci à le revendre. Et bon, en Serie A, ça va être compliqué pour Galatasaray, ça va peut-être être compliqué aussi. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour le PSG à le vendre à un bon prix, en tout cas.
Mais au-delà du cas Icardi, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait un peu négocier un peu avec les Saoudiens pour nous libérer de tous nos indésirables? J'ai vu Kurzawa dans les commentaires, sachez que même les Saoudiens ne voudront pas l'acheter, il ne faut pas abuser. Ils essaient de ramener du monde en Arabie Saoudite. Kurzawa, il ne va pas ramener de gens en Arabie Saoudite. Donc peut-être Wijnaldum, ouais, peut-être pourquoi pas, j'ai vu dans les commentaires. Mais je pense qu'on pense tous au même joueur qu'on aimerait que les Saoudiens viennent acheter. Je sais
Ah,
pas,
je sais
vous en
pas, moi
pensez
la
quoi? Est-ce
liste
qu'il y a
elle
d'autres joueurs dans l'équipe?
est... Je sais pas, tu dis un, moi j'en vois plusieurs en fait, mais...
Là, il y en a un, ça nous ferait du bien énorme. Vraiment énormément.
Non, bah c'est sûr, après il faut voir aussi les envies des joueurs, parce que s'ils n'ont pas envie d'y aller, bon bah c'est cuit. Je pense qu'un Draxler par exemple, on le vendrait là-bas volontiers, mais est-ce qu'il a envie de partir en Arabie Saoudite? Je pense pas. Wijnaldum non plus. Puis c'est des joueurs qui ont quand même quelques sollicitations d'autres clubs. Alors après, nous, ça nous arrange pas parce que ces clubs-là sont pas prêts à mettre la somme qu'on veut. Et peut-être qu'on va devoir les lâcher à 3, 4, 5, 1 euro symbolique, on va dire, malheureusement. Mais ouais, je pense pas que ces joueurs-là ont envie de partir en Arabie Saoudite dès maintenant. Maintenant, en plus, ils ont d'autres, je pense, d'autres sollicitations. Mais c'est clair que ça nous ferait du bien et qu'on en a pas mal à liquider.
Bah, on a
Ouais,
déjà
la
les
liste,
huit
elle est
joueurs
longue.
prêtés.
Non, ils sont
Oui.
plus 8.
Bah,
Parce
maintenant,
qu'on
ils reviennent
en
en
a
plus.
laissé. Par exemple, Herrera, on l'a laissé là-bas.
Herrera, il est vendu, je crois.
Kerrer, il reste là-bas.
Il n'était
Je
pas
crois qu'il en
prêté,
reste 4.
Kerrer, il n'était pas prêté, il était vendu de manière sèche.
Dina et Bimbe
Bon,
aussi, ça y est, avec Francfort.
voilà,
Ouais,
Dina
il y a
Mbembe.
ton
En
neveu,
soi,
X.
on a récupéré Draxler, Icardi, Wijnaldum,
Paredes. Diallo.
Paredes et Draxler. Ça fait
Et
5.
Navas.
Diallo
Attends,
Navas. Ah oui, il y a Navas, ça fait 6
Navas,
ou 7.
Paredes, Diallo, Draxler, Icardi, Kurzawa, Michu, qui n'a pas été revendu encore.
Ouais. Dagba,
Ouais,
elle nous
ça
dit
fait
dans les
7,
commentaires.
effectivement. Ouais, Dagba aussi, ça fait
Dagba qui
8,
va
parce que
revenir.
quand tu es formé au club, t'es pas compté dans les joueurs prêtés, donc tu peux en prêter 8 qui ne sont pas formés au club. Ouais, la liste est longue et on s'est amusé à faire un calcul. Je crois qu'il y a 60 millions de masse salariale qui s'est baladée en prêt cette année. Donc, ouais, si tu peux déjà les évacuer, eux. Parce que j'imagine que toi, tu parles de Neymar quand tu dis le joueur à évacuer en Arabie Saoudite.
Bien évidemment.
D'ailleurs, j'allais dire, étrangement, avec Mané, c'est les deux cocus de l'histoire parce que c'est les deux seuls joueurs qui n'ont pas reçu d'offres d'Arabie Saoudite avec des salaires mirobolants.
Oh, je pense que
Je
Mané,
comprends
il a
pas
dû en
pourquoi.
recevoir. Hein. Je pense que Mané a dû en recevoir, mais je pense
Ah, le
qu'il a
Bayern aurait
vraiment pas envie d'y
communiqué.
aller.
Non, non, le Bayern aurait communiqué à ce sujet, je te rassure.
Ok,
C'est
bon,
étonnant.
on a fait.
C'est étonnant quand même pour
Vas-y,
un
on.
joueur comme Mané. En plus, il est musulman, si je ne me trompe pas. Donc, étonnant que les Saouds n'aient pas pensé à lui quand même. Je pense que ça n'a juste pas fuité. Mais
C'est les deux perdants
je.
pour moi, comme je te dis, Neymar. Allez, tu peux mettre Hazard parce que lui non plus, il n'a pas eu de proposition encore. C'est les trois grands perdants pour le moment de ce nouvel idylle, on va dire, entre guillemets.
Non, mais là c'est vraiment l'opportunité pour tous les mecs qui ont, entre guillemets, surpayé des joueurs de réussir à s'en débarrasser.
Un peu comme la Chine il y a quelques années, ouais. Ouais, ça peut être un peu dans ce
Non,
système-là.
c'est sûr que c'est une vraie porte de sortie et financièrement intéressant pour le PSG, même pour les joueurs, mais après il va falloir qu'ils acceptent d'y aller et ça c'est une autre paire de manches.
Ok, prochain sujet, Nagelsmann est un créateur de crack. Alors, pour étayer ce titre, on a la déclaration de Christopher Nkunku sur les rumeurs Nagelsmann au Paris Saint-Germain qui nous dit: c'est un coach qui m'a énormément aidé à me développer, c'est un coach focalisé sur le foot, l'aspect tactique. Comprend la possible arrivée de Nagelsmann au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de notre centre de formation qui est déjà bien fourni, mais qui nous manque ce côté post-formation qui nous fait défaut au niveau de nos joueurs du centre de formation. Est-ce que vous pensez que Nagelsmann, il peut changer ça? Et notamment des joueurs comme Zaïre Emery, Bichabou, on a Pembélé aussi à droite, plutôt qu'à acheter des joueurs, est-ce que ce n'est pas la pièce manquante qui pourrait nous aider à rendre nos joueurs du centre de formation des joueurs pros de très haut niveau? Vas-y, Réco. Je
Ouais,
vous laisse 2 minutes parce que c'est la saison du pollen. Je vous laisse répondre et je reviens.
vas-y. Ouais, non, bah, on parle de joueurs post-formation, mais je dirais même des joueurs post-transfert, parce qu'au final, les joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain, en général, ils ne se développent pas, ils régressent même. Donc au final, un Nagelsmann, effectivement, il a la double casquette. C'est un entraîneur qui aime développer collectivement cette équipe, qui aime ses équipes, qui aime avoir des équipes qui dominent, qui jouent bien au football. Mais aussi, pour ça, et c'est quand même important d'en parler, parce que c'est quelque chose qui pourrait paraître logique, mais qui quelque part n'est pas forcément la priorité de certains entraîneurs, c'est développer individuellement les joueurs, déjà tactiquement et mentalement. Ça te permet d'avoir quand même un meilleur collectif aussi, des meilleurs joueurs et donc un meilleur collectif. Ça paraît logique, mais c'est vrai que certains coachs ne sont pas forcément, s'attardent pas forcément là-dessus. On peut prendre l'exemple de Galtier notamment, mais il y en a plein d'autres, et des grands coachs aussi. Mais Nagelsmann a cette particularité-là, et on a cité Nkunku, mais aussi Serge Gnabry, qui à Hoffenheim avait dit qu'il avait clairement changé sa vie. Donc il y a pas mal de joueurs comme ça. Après, voilà, Nagelsmann, c'est un entraîneur clivant. Il peut faire l'unanimité comme le contraire. On sait qu'au Bayern, il avait perdu ses cadres. Donc, c'est un petit peu tout ou rien. Mais en tout cas, effectivement, il a cette particularité-là. Et moi, je pense que ça peut être une bonne chose au PSG parce que ouais, que ce soit post-formation ou post-transfert, tout simplement, la plupart des mecs, ils régressent, ils ne progressent pas. Et avec un Nagelsmann, ce serait une bonne chose.
Toi, t'entends l'expert Nagelsmann?
L'expert. Je dirais plutôt fan. J'aime beaucoup cet entraîneur, tu vois. Moi, je te dirais que justement, si tu veux développer tes jeunes joueurs et notamment cette post-formation, comme tu l'as très bien dit, Nix, oui, en soi, c'est le coach parfait. On va dire que si tu veux résumer Nagelsmann dans le mieux de ce qu'il a pu faire, bah, c'était à Leipzig. Et justement, bah, là-bas, c'est quoi la spécialité? C'est d'acheter des jeunes joueurs à fort potentiel et de les post-former et de les faire éclater. Tu cites Christopher Nkunku, excellent choix. C'est un joueur qui est formé milieu de terrain au Paris Saint-Germain, qui joue au poste de 8, même si Tourelle l'a des fois fait jouer un petit peu plus haut. Bah, au final, tu te rends compte que Nagelsmann, il se dit, bah non, ce joueur, je n'en veux pas au milieu de terrain, je vais en faire un second attaquant. Et aujourd'hui, bah, s'il a signé à Chelsea et qu'il a été courtisé par l'Europe, c'est parce que justement, bah, ce n'était pas comme milieu de terrain qu'on le cherche, c'est maintenant comme deuxième attaquant. Donc, il a su non seulement faire progresser le joueur, mais en plus le faire évoluer et complètement changer de poste, ce qui n'est pas forcément évident. Et il y a d'autres exemples comme ça. Je peux parler de Nordi Mukiele, qui joue d'ailleurs actuellement chez nous. Nordi Mukiele, la saison, il marque le plus de buts, c'est sous Nagelsmann en jouant en piston droit. Et quand il joue chez nous, tu as l'impression, quand il est latéral, que c'est presque un latéral maladroit de ses pieds. Donc, il y a vraiment cette dimension de, il fait progresser les joueurs tactiquement, personnellement. Je peux continuer avec cette liste aussi de joueurs qui ont développé sous Nagelsmann. Mais en effet, c'est ce coach qui pourrait prendre des joueurs comme El Shaddai, comme El Zaïre Emery, comme Pembélé, comme Ismaël Garbi et même Mousni aussi pour en faire des joueurs différents. Même Hugo Ekitike, d'ailleurs, rentre dans cette politique. Bah, tous ces joueurs-là, bah, sous Nagelsmann, en tout cas, ce seraient les grands gagnants avec les Pistons et Mbappé, en tout cas, si tu as l'arrivée de ce coach-là pour les raisons que j'ai évoquées. Après, cependant, bien entendu, est-ce que tu vas lui laisser cette marge de manœuvre pour le faire? Parce que si on se fie à l'expérience à Munich, par exemple, le Bayern, ce n'était pas la priorité de développer les jeunes joueurs, donc bah, il n'a pas pu forcément le faire. Et si tu te réfères au passage de Nagelsmann au Bayern, bah, c'est quasi pas le même coach que ceux de ce qu'il était à Leipzig. Il ne faisait pas les mêmes choses, en tout cas. Donc, tout dépendra de la marge de manœuvre que tu lui laisses au final.
Ok, on va rester sur le dossier Nagelsmann. Juste, je vais mettre un jingle boulot parce que tonton, tu viens de faire le boulot en commentaire. On va relancer le replay, on va remettre les commentaires parce que tu viens d'éteindre
Non,
quelqu'un dans les commentaires là.
non, c'était pas méchant.
Alors,
Tu vois, c'est important de rétablir la stat.
Alex qui nous dit ça veut virer Neymar pour prendre Silva. C'est quelque chose que je vois souvent sur Twitter d'ailleurs. Vous n'allez pas comprendre, les frérots, comment on va galérer en Ligue 1. Et si on reprend le replay et on reprend la VAR, regardez la réponse de tonton.
Non,
Bernardo a mis autant de buts en phase finale contre le Real en un match que Neymar depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je pense que tu devrais ramasser tes dents un petit peu par terre, Alex.
non,
Voilà.
après, c'est
Bon, on
le but, tu
continue.
vois, n'est pas d'être humiliant, mais tu vois, c'est un
Non,
moment
mais
dire
on rigole, Alex.
rabaisser Bernardo Silva, tu vois, comme si c'était un piètre joueur de district. Non, déjà, le problème, c'est pas on veut virer Neymar, c'est dans l'équilibre du match, à un moment, Neymar, il joue au côté préférentiel gauche comme Mbappé. Et ça ne marche pas. Neymar, je l'adore, hein, mais à un moment, tu ne peux pas compter sur lui parce qu'il est tout le temps blessé, c'est un fait. Je n'ai pas dit que c'est de sa faute, mais c'est un fait. Bernardo, il peut jouer à droite. Donc si tu prends Bernardo et t'enlèves Neymar, ben, tu équilibres cette équipe aussi. Ça, tu vois, c'est important à prendre en compte.
Après, les deux
Ah,
peuvent
ok.
jouer ensemble aussi, mais c'est
Oui.
bien d'avoir un Bernardo Silva parce que à partir du moment où tu peux pas vendre Neymar, parce qu'on va pas se mentir, on va pas pouvoir le vendre, et qu'il est absent 50% de la saison dans les matchs qui comptent, c'est important d'avoir un Bernardo Silva. Il n'y a pas le choix. Neymar, si on lui en veut, c'est oui, effectivement, bon, il y a son hygiène de vie, il se blesse beaucoup et tout, mais si on lui en veut, c'est aussi parce qu'on est frustré de voir l'importance qu'il a dans notre équipe, et quand il n'est pas là, c'est un naufrage. Il y a un PSG avec et sans Neymar. Donc forcément, avoir un backup. Un backup, il serait titulaire à droite, je pense. Mais avoir la capacité de pouvoir mettre un Bernardo Silva à la place d'un Neymar quand il n'est pas là, ben c'est hyper important. On n'a pas le choix, en fait.
Ok, j'ai une question sur Nagelsmann aussi. Justement, on nous dit, est-ce que vous pensez que ce sera Mukiele ou Hakimi qui sera titulaire, sachant que c'est Nagelsmann, sachant que Mukiele et Nagelsmann ont déjà bossé ensemble à Leipzig. Qui
Ah,
s'y coche? Tu veux commencer, Rico?
pour moi, je pense que ce sera Hakimi par rapport à ce qu'il demande. Il avait Mukiele à Leipzig, donc il a fait jouer Leipzig et il a fait jouer Mukiele. Mais à partir du moment où tu as Hakimi et Mukiele, je pense qu'il fera jouer Hakimi. Par contre, ça ne m'étonnerait pas de voir Mukiele titulaire en défenseur central droit sous Nagelsmann.
Ben, moi, j'allais dire en soi, si tu parles du poste de piston, Hakimi a plus de chance dans le sens où il répond plus aux demandes de Nagelsmann en tant que piston. Mukiele, par contre, ne sera pas forcément perdant parce qu'il est polyvalent. Il pourrait très bien jouer dans la défense à 3 sous Nagelsmann aussi dans l'axe droit. Donc, si tu me parles du poste de piston pur, je pense que Hakimi aura une longueur d'avance. Cependant, si Hakimi n'est pas au niveau, Nagelsmann est du genre à concurrencer ses joueurs. Donc, il peut très bien mettre Mukiele à la place de Hakimi si Mukiele se révèle plus au niveau que Hakimi en tout cas.
Ok, bah écoutez, on a bouclé le dossier Nagelsmann. On va passer au prochain sujet, qui
Vas-y,
est que le futur coach va bouleverser le mercato du Paris Saint-Germain. Parce que en fonction de qui va être choisi, ça va altérer qui veut venir et qui veut pas venir au Paris Saint-Germain. On a notamment Xavi Simons qui a fait une déclaration là-dessus. Il a dit, je suis au courant de la clause du PSG pour me faire revenir, mais pour autant que je sache. Ils n'ont pas encore d'entraîneur. Donc, peut-être que si c'est Nagelsmann, par exemple, Simon, s'il va venir. Si c'est, je sais pas, Mourinho, peut-être qu'il n'aura pas envie de venir. Donc, la question, c'est entre guillemets, quel coach va nous faire le plus mal, entre guillemets, si on le recrute au niveau du recrutement des joueurs derrière? Vas-y, tonton.
Tu parles du coach qui en gros serait le mieux pour Xavi Simons, si j'ai bien compris.
Non, pour Xavi Simon, c'est en général lequel.
Dans la
Enfin, réponds
globalité
pour
du
Xavi
mercato,
Simon,
quoi.
c'est pour les autres joueurs en général. Qu'est-ce qui
Là,
va
vous avez
nous
parlé à deux
aider et
du
qu'est-ce
coup.
qui va nous handicaper le plus pour le mercato?
Je t'avoue que du coup, j'ai mal compris ta question avec le. Vous avez parlé à deux, en fait. Donc vas-y,
Attends,
repose.
je
Repose, bah,
reprends. Que si tu n'as
vas-y.
pas compris, il y a peut-être des gens dans les commentaires qui n'ont pas compris. Il y a Xavi Simons qui a dit qu'il est au courant de la clause du Paris Saint-Germain pour le faire revenir, mais pour autant qu'il sache, ils n'ont pas encore d'entraîneur. Donc, est-ce qu'en fonction du coach que le Paris Saint-Germain va choisir, c'est lequel qui va nous faire perdre le plus de recrues? Parce que par exemple, Xavi Simons, c'est
Ah.
quelqu'un d'intéressant peut-être pour le futur. Mais
Quel
peut-être
serait le
que si on
coach qui
prend, je
ferait
sais
le
pas,
plus
Mourinho.
fuir ouais, je vois.
Ouais.
C'est ça?
Donc
Celui
voilà.
qui ferait le
Ouais,
plus
tu vois.
fuir Xavi Simons et nos recrues potentielles.
Exactement.
Bonne question. Bonne question. Donc, si on reste sur les pistes actuelles, on est d'accord que pour toi, c'est Luis Enrique. Il y a aussi, comment qui s'appelle, Yann Nagelsmann. Du coup, j'imagine qu'il y
Thiago
a
Motta.
toujours Thiago Motta dans la liste. Bah, je pense que c'est Luis Enrique dans le sens où il est hyper caractériel, il fait très très peu de concessions. Ouais, je pense que ça peut être Luis Enrique. Après, je me trompe peut-être, je sais pas ce que t'en penses, Rico, mais.
Bah, par rapport au profil et à son caractère, ouais, pour moi, ce serait Luis Enrique. Et même par rapport à l'effectif qu'on a aujourd'hui, par rapport aux recrues aussi, par rapport à un Ugarte où tu mets 60 millions, par rapport à Skriniar aussi qui devrait venir. Pour moi, Luis Enrique n'est pas compatible avec l'effectif actuel du PSG. Donc, je préférerais un Nagelsmann qui peut plus facilement s'adapter et qui a beaucoup plus de joueurs qui pourraient correspondre à ce qu'il veut, à sa conception du football. Donc, pour moi, ce serait plus à Enrique à fuir. Maintenant, ce qu'il y a à retenir de son interview, quand même, c'est l'officialisation du départ de Galtier, quand même. Au final, il l'a officialisé lui-même avant le PSG, c'est ça qui est marrant. Mais effectivement, je pense que. Alors, soit, en fait, y a deux hypothèses. Soit le coach est déjà connu en interne, et donc Campos est déjà en train de faire le mercato par rapport à lui. Soit il n'est pas connu, et donc, forcément, le cas Xavi Simons est. Bah Bernardo Silva, Gundogan et les gros joueurs, on va dire, que cible le PSG, donc aussi le numéro 9, potentiellement un gros défenseur central ou un autre MC, donc on parle de Gundogan, on attend de savoir qui va être le vrai coach officiel du PSG. Et c'est normal, c'est des dossiers, c'est des gros dossiers. Les joueurs aussi attendent de savoir qui ça va être. Forcément, ça peut avoir une incidence positive ou négative. Donc, on peut penser, vu sa déclaration et comme les dossiers, les gros dossiers pour l'instant traînent, on peut penser que le coach n'est peut-être pas encore connu. Donc, on va attendre l'officialisation. Mais même s'il y a eu Asensio et Ugarte, on pense peut-être que ça peut être plutôt des doublures. Ugarte est très jeune. Alors, vu le mercato pour l'instant, on se dit qu'il va être titulaire, vu le prix, etc. Mais au final, peut-être qu'il ne le sera pas forcément. Un Asensio, c'est une doublure. Un Thuram, ça pourrait être une doublure aussi. Donc, au final, peut-être que le coach, peut-être qu'on se concentre sur les doublures aujourd'hui, à étoffer l'effectif et pas encore sur les gros dossiers parce qu'au final, le coach n'est pas encore connu.
Ok, salut à toi, Marc. Il y a Wissoubrad qui nous demande et vous pensez, c'est qui la quatrième piste? Je pense que tu parles des coachs, la piste dont tout le monde part.
Il n'y a pas de piste secrète, on va nous parler encore de Zidane parce qu'il n'y a plus de bruit autour de Zidane, alors ce serait la piste secrète. Ouais, il n'y en a pas de piste secrète, je pense qu'aujourd'hui ce sera Nagelsmann ou Enrique, voire Thiago Motta, mais bon voilà, je pense que des pistes secrètes, il n'y en a pas réellement, c'est du bullshit.
Écoutez, petite dédicace à tous ceux qui sont dans les commentaires, qui souffrent comme moi avec le pollen. Je pense qu'on a trouvé pire que Paredes et Icardi à Paris, il y a le pollen. Et on souffre encore plus.
Il y a Galtier quand même.
Pire que Galtier. Galtier m'a fait souffrir devant les matchs. Le Pollet, c'est 24 heures sur 24, c'est terrible. Justement, pour enchaîner là-dessus, on a parlé de Xavi Simons. Il y a également Gundogan. Et là, on tombe directement sur la question que je vais vous poser, parce que Xavi Simons et Gundogan, par exemple, je pense qu'ils viennent au PSG s'il y a Nagelsmann. Ça, c'est deux gros dossiers qui sont intimement liés à Nagelsmann. Et est-ce que pour vous, Gundogan serait vraiment une bonne option pour le Paris Saint-Germain, ou est-ce que ça va faire comme les autres dossiers, entre guillemets, joueurs de fin de début de trentaine, qui cherchent un dernier contrat et qui, bon, il vient de gagner la Ligue des Champions en plus et va se la couler douce jusqu'à ses 35-36 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Réco.
Non, mais je pense qu'on ne peut pas cracher sur un Gundogan quand on voit encore la finale qu'il fait hier, la finale de FA Cup, même sa saison globalement. Tu ne peux pas cracher sur un Gundogan, il ferait un bien énorme au milieu de terrain. Après, effectivement, le fait qu'il ait accompli ça avec City fait que peut-être on peut penser qu'il va se la couler douce, que derrière il va prendre son dernier contrat et qu'il n'aura pas autant la motivation qu'avant, tout simplement, qu'avant de la gagner. C'est vrai, et c'est pour ça que c'est important aussi de prendre des joueurs justement comme Xavi Simons, des joueurs qui ont encore besoin d'écrire leur histoire, de grandir et de gagner des trophées majeurs. Il y a d'autres joueurs qui sont dans ce cas-là, mais je pense que c'est tout simplement un ratio. Encore une fois, on en revient à cette histoire de balance entre des jeunes joueurs, des talents, des cadres, des joueurs qui ont déjà gagné cette Ligue des Champions, des joueurs qui ont besoin d'aller gagner cette première Ligue des Champions. C'est un ratio, c'est une balance entre tout ça. Mais aujourd'hui, un Gundogan nous ferait extrêmement de bien. En plus, sous Nagelsmann, ce serait hyper compatible. Xavi Simons de même. Donc, pour moi, les deux, j'espère que ce sera Nagelsmann et j'espère qu'ils viendront, évidemment.
Tonton ?
Idéalement, ouais, j'allais dire Nagelsmann, ça allait être le coach idéal pour ces deux joueurs, dans le sens où, dans son 3-4-2-1 ou 3-2-4-1, ça dépend, il aime bien utiliser les deux dispositifs. En fait, Gundogan sera le milieu qui va jouer à côté d'Ugarte. Donc, du coup, Ugarte, ça va être un peu le 6, tu vois, qui va maîtriser cette zone, apporter la défense en zone et le côté un peu plus bosseur. Et Gundogan, en fait, il va se projeter naturellement vers le haut, il va apporter le surnombre. Il va faire comme il était à Manchester City, en fait, et comme il a été à Dortmund aussi. Donc, au final, si tu prends Nagelsmann, c'est cohérent. Concernant Xavi Simons, faut dire ce qui est, c'est un peu comme Nkunku. Quand il est au PSG, au début, il est un peu milieu dans le milieu à trois, très barcelonais, tu vois. Parce que faut dire ce qui est, il est passé par Barcelone, Xavi. Et sous Nagelsmann, je pense que tu vois, ce serait comme Nkunku, mais il jouerait dans les deux, dans le 3-4-2-1, tu vois, en attaquant de soutien. Parce que finalement, Xavi Simons, il est devenu vachement plus offensif aux Pays-Bas. Il a d'ailleurs été meilleur buteur de championnat, si je ne dis pas de bêtises, au passage. Donc oui, je pense que complètement, sous Nagelsmann, il pourrait être justement dans ce poste de 3-4-2-1, dans la ligne de 2, qui sont justement des attaquants de demi-espace, qui sont à moitié des 10, des faux 9, tu vois. Donc je pense que justement, Xavi Simons et Gundogan, si c'est Nagelsmann, en tout cas, ça leur donnera plus envie que si c'est un Luis Enrique, tu vois.
Ok. Prochain sujet, c'est une question que j'ai posée hier sur Twitter, elle a fait pas mal réagir, donc je vous la balance encore. Est-ce que Pep Guardiola ne donnerait pas une image, entre guillemets, embellie de Manchester City comparée à la réalité, ce qui fait défaut au Paris Saint-Germain, par exemple, dans le sens où hier soir, après la victoire, j'ai vu plein de gens crier au génie de Pep Guardiola, dire que waouh, ce mec, il est trop fort, etc., etc. Alors que je me pose la question, je me dis, si le Paris Saint-Germain avait gagné la Ligue des Champions cette année, par exemple, je pense que les commentaires, ils seraient complètement différents. On serait sur c'est l'argent qui a gagné, le méchant Qatar, blablabla. Et du coup, je me demande, est-ce que le Paris Saint-Germain, peut-être, n'aurait pas besoin d'un bouclier aussi, comme ça, un mec, il est tellement fort que. En fait, même si on gagne, ils vont oublier que c'est le Qatar, etc. Ou est-ce que parce qu'on est Paris et que Paris, ce sera toujours comme ça, et qu'on s'en sortira pas, on aura toujours cette mauvaise image, peu importe le coach qu'on ramène, et que j'ai vu un mec qui m'a répondu, il m'a dit, même si tu ramènes Guardiola au Paris Saint-Germain, son image, elle va en prendre un coup, et que ça va pas être comme City. Donc, est-ce que vous pensez que, entre guillemets, déjà, il y a injustice au niveau des deux, parce que les deux, ils ont dépensé autant, voire City a dépensé beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y a un mec qui existe qui peut avoir cet effet sur le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas qui a commencé tout à l'heure, je crois. Vas-y, tonton.
Bah, en soi, pour répondre à ta question, ouais, Guardiola, il a un peu ce truc à Manchester City de l'aura totale, parce qu'au final, les gens n'aiment pas dire que Guardiola, mine de rien, il a eu tout ce que rêve d'avoir un coach à Manchester City. Il a eu le temps, il a eu l'argent, il a eu le droit à l'échec et il a eu le droit à dépenser, dépenser, dépenser. À un point, il a dépensé presque 1,5 milliard depuis son arrivée à Manchester City. C'est pas grand-chose. Donc, c'est plus que le Paris Saint-Germain, en fait, depuis que QSI est arrivé. Voilà. Pour parler du grand méchant PSG et son argent maudit. Voilà, ça c'est un fait. Par contre, Guardiola, il faut dire ce qui est, il utilise bien cet argent. Bah, la preuve en est, finalement, il réalise encore un triplé en tant que coach. Il gagne avec la manière, même si sa finale de hier, c'est justement, j'en parlais, c'est sa finale la plus pragmatique, la plus poussive, mais il gagne. Donc, s'il vient au Paris Saint-Germain, bah, non, je pense qu'au contraire, comme tu as dit, ça va entacher son image. Parce que bah, Paris, il faut le dire, c'est pas un. Ce n'est pas un club qui a été créé en 1899, 1870, en 1900. C'est un club qui a été créé en 1970, qui est assez récent. C'est le club de la capitale française qui arrive récemment, qui bouscule les autres parce qu'il y a l'argent qui arrive avec le Qatar. Tu rattrapes aussi les autres. Je pense que si Guardiola y vient, il y aura quand même cette image de bah, ah, Guardiola, finalement, c'est un mercenaire. Il va là où il y a de l'argent. Il a enchaîné les Émirats arabes et le Qatar pour l'argent. Je suis sûr qu'on lui fera la reproche à tous les coups. Et je ne pense pas qu'il existe de recette miracle pour le PSG. Bah, on le voit bien, je veux dire, le PSG peut faire des choses bien. Bah, on dira que ce ne sera pas pour les bonnes raisons, que ce sera toujours pour l'image du Qatar ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'en fait, même si tu ramènes Nagelsmann au PSG, qui fait ce qu'a fait Pep à Manchester City et que Nagelsmann le fait en 2 ans, eh ben, je pense que malgré ça, on dira que oui, mais c'est parce que Nagelsmann a eu le temps, Nagelsmann a eu l'argent, c'est l'argent du Qatar, ils ont Nasser qui a l'UEFA, donc du coup, ils ont du copinage. Je pense qu'il y aura toujours ce truc-là et qu'on ne pourra pas s'en détacher parce qu'il y a des clubs, ils ont toujours l'image de méchant et ils la garderont. Regarde Chelsea.
Ouais, je suis
Juste avant
d'accord avec
de
ça, moi je... Ah, vas-y.
redonner la parole à Recoba, juste pour préciser aussi que normalement Manchester City, ils sont sous le coup d'une sanction normalement cette année qu'ils ont fait lever au tribunal arbitral du sport. Donc déjà normalement ils sont censés être sanctionnés. Donc vas-y Reco.
Ouais, je suis d'accord avec tonton. Pour moi, en fait, c'est une image qui colle au PSG et à certains clubs, notamment Chelsea, je suis d'accord, et qui ne bougera jamais. Tu ramènes Guardiola aujourd'hui au PSG, qu'il gagne ou qu'il perde, il aura une sale image. Je pense que son image va être sacrément entachée. Et on a le cas déjà avec Mbappé. C'est assez rare d'avoir un joueur aussi fort, aussi générationnel et qui divise autant les Français, d'avoir autant de détracteurs. C'est un joueur normalement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on devrait quand même être derrière lui et avoir comment dire, être heureux d'avoir ce joueur-là. Et en général, d'ailleurs, quand il joue sous le maillot bleu et qu'il fait une finale comme il fait face à l'Argentine, tout le monde est content. Mais après, quand il retourne sous le maillot du PSG, ah bah ça y est, là, il est détestable, il a le melon, etc. Évidemment, il a ses défauts, comme tout joueur. Maintenant, pour moi, c'est une chance d'avoir un joueur pareil et on devrait tous être derrière lui. L'Argentine, tout le monde est derrière Messi, il n'y a pas de débat. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la mentalité française. Et envers le PSG, ça fait. Bah voilà, ça critique très, très facilement. Je pense qu'aujourd'hui, si Mbappé était parti de Monaco au Real Madrid, il n'aurait pas autant de détracteurs français. Donc voilà, ça montre bien que le fait d'être venu au PSG, entache beaucoup son image. Et pour moi, ce serait pareil avec Guardiola, aussi fort qu'il soit, et avoir un aussi grand capital de sympathie ne n'y changerait rien. En venant au PSG, je pense qu'il entacherait ça totalement. Maintenant, malgré l'argent qu'il ait pu dépenser, Guardiola, c'est quand même un génie et tout le monde s'accorde à le dire, que ce soit les anciens, que ce soit les joueurs actuels, ses joueurs, d'autres joueurs. Quand tu vois les interviews à propos de lui, quand tu vois ce qu'il fait, c'est un génie du football. Il n'y a rien à dire. Il aura marqué l'histoire du football. Donc, pour ça, respect, peu importe l'argent qui a pu être mis sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, l'argent, ça ne sert à rien d'en parler. Tout le monde a de l'argent. Tous ceux qui gagnent la Ligue des Champions ont mis des sommes folles sur le marché des transferts. Alors certains en ont mis plus que d'autres parce qu'ils se sont trompés à certains moments sur des joueurs, etc. Mais au final, si tu n'as pas d'argent, si tu n'investis pas massivement, tu ne gagnes pas une Ligue des Champions. L'effectif du Real qui gagne, l'effectif de Liverpool qui gagne, quand tu poses 90 millions ou 80 millions sur Van Dijk, bah, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Et le Paris Saint-Germain pourra gagner une Ligue des Champions seulement en investissant aussi de l'argent. Alors après, on s'est pas mal trompé, on a mis aussi le marketing en avant. Ça, c'est une réalité. Guardiola a pu travailler dans des conditions aussi où, comme l'a dit Tonton, bah, il a eu le droit à l'échec. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'il coach City. Il y a eu des échecs. Il aurait pu se faire sauter à plusieurs reprises et pour autant, ils lui ont fait confiance. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre en place au PSG aussi. Choisir, par exemple, Nagelsmann et lui donner la pleine confiance. On voit au Bayern aujourd'hui, peut-être qu'il regrette d'avoir Tej Nagelsmann au bout d'un an et demi, puisque derrière, Oliver Kahn et Salihamidžić se sont fait limoger. Donc, bah, si on veut pouvoir gagner une Ligue des Champions un jour, oui, il faut investir de l'argent comme tout le monde, mais il faut aussi faire les bons choix et laisser du temps au coach, comme a pu en bénéficier Guardiola. Maintenant, pour ce qui est de son image, moi, je pense que voilà, on voit avec Mbappé, je pense que Guardiola, il vient au PSG, il a une sale image aussi, malheureusement. T'as coupé ton micro, Nyx ?
Justement, on va le laisser faire ça, c'est drôle.
Ouais, merci. Ouais, je vais conclure sur le fait que si Guardiola, qu'est-ce qui se serait passé à Paris si Guardiola il avait été éliminé par l'OL, le cirque médiatique qui se serait passé au Paris Saint-Germain, ça aurait été n'importe quoi. Ok, qu'est-ce qui reste après voilà, est-ce que après la finale d'hier soir et que City a gagné sa première Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez que le Qatar est un petit peu vexé? Et la question qui en découle, c'est, vous vous rappelez la dernière fois que le Qatar était vexé après la remontada, ce qui s'est passé? Donc, avec le Qatar vexé, est-ce que vous pensez que le mercato de cet été, il peut être encore plus fou qu'en 2017? Vas-y, tonton.
Bah, en fait, ça dépend des possibilités. Je t'avoue que je ne connais pas les moyens du PSG. Je ne peux pas dire le PSG a tel budget, du coup, tu peux frapper plus ou moins fort. Je ne connais pas les contraintes qu'ils ont, mais je pense que si tu poses les faits, l'Arabie Saoudite est en train d'attirer Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Kanté dans son championnat. L'Émirat Arabe Uni vient de gagner la Ligue des Champions avec la manière et en faisant le triplé avec Pep Guardiola comme coach. Ouais, je pense que l'Émirat Thani, il y a beau avoir eu la Coupe du Monde chez lui, je pense que là, mais il doit être mais dans un état. S'il peut, je pense qu'il met beaucoup d'argent cet été. S'il peut en tout cas.
D'accord. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Après, pour un argument aussi différent, ce serait aussi le fait que aujourd'hui le Paris Saint-Germain rayonne dans le monde au terme de marketing, d'influence, etc. Donc, je pense que leur objectif il est un petit peu atteint. Maintenant, il va falloir aussi le faire perdurer, évidemment, ne pas négliger cet aspect-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on peut quand même se reconcentrer un peu plus sur le sportif. Il y a eu pas mal de déceptions aussi, de désastre, on peut le dire. Il y a encore aujourd'hui une facilité à se faire sortir en huitième ou en quart de finale qui n'est pas normale et qui n'est pas acceptable pour le PSG. Donc, je pense qu'avec tout ça, cet été, c'était quand même prévu de faire un gros mercato, de recruter de vrais joueurs et de repartir sur un vrai projet. En plus, tu peux peut-être perdre Mbappé l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'il y a, un réel intérêt pour le Qatar, je pense, de se reconcentrer sur le sportif. Maintenant, le fait que City ait gagné la Ligue des Champions, forcément, je pense que ça y contribue aussi. Et à un moment donné, être le dernier, le petit dernier, je pense que ça ne leur fait pas plaisir. Et donc, je pense que ouais, ils vont vouloir investir massivement.
Ok, petite question de Julien qui nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de prendre Kim Min-jae et Barella pour cette nouvelle saison ?» Alors, avant de leur donner la parole, moi, je stream à 100%. Parce que franchement, moi, je suis très simple. Moi, je regarde les faits. et ce qui s'est passé en général, ça ne veut pas dire que ça va forcément se reproduire. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des facilités. Et moi, je regarde qu'en général, les joueurs qui sortent de Serie A et qui sont venus au Paris Saint-Germain, qui étaient bons en Serie A et qui sont venus au Paris Saint-Germain, ils ont eu un temps d'adaptation qui était excessivement long. Donc, en fait, des joueurs qui viennent de Serie A, les deux, ils sont très bons. Déjà, Barella, je le voulais avant qu'il aille à l'Inter. Je crois que Leonardo était dessus aussi. Tonali aussi, je le voulais avant qu'il aille à Milan. Et tu vois que ces joueurs-là, je pense qu'ils arrivent au PSG. Vas-y, on va dire, ils arrivent en août, octobre, novembre, mais ils sont déjà prêts. Vas-y, Rico.
Oui, parce que en fait, pour moi, la Serie A est le championnat étranger qui ressemble plus à la Ligue 1. Et du coup, il y a une facilité à ces joueurs-là de s'adapter en Ligue 1, de s'adapter aussi à la philosophie du PSG. Il y a eu beaucoup de cas par le passé, voilà, les Ibra, les Cavani, les Lavezzi et autres. Donc aujourd'hui, Kim a été élu meilleur défenseur central meilleur défenseur de Serie A. Barella est un des meilleurs milieux de terrain aussi de Serie A. Il a fait une énorme Ligue des Champions, même si sur la finale, il passe un peu au travers. Évidemment que c'est des joueurs magnifiques qu'on aurait besoin au PSG. Maintenant, est-ce qu'on va les faire? C'est une autre question, mais oui, évidemment qu'on les veut.
Bah, pour rejoindre Koba, ouais, justement, bah, tu peux avoir des joueurs de haut niveau qui ont prouvé au haut niveau et qui vont avoir faim parce qu'en plus, Barella, il vient de perdre la finale de Ligue des Champions. Donc là, je pense que lui, les crocs, il les a. Donc, en plus, j'ai envie de te dire, Barella, c'est peut-être le meilleur moyen de faire revivre Verratti aussi si tu recrutes ce joueur parce qu'on connaît l'entente entre les deux, la complémentarité entre les deux. Il répond à pas mal de problématiques au poste de milieu, notamment, bah, justement, il nous manque ce milieu un peu créatif qui se projette. Barella, on sait qu'il aime bien se projeter dans la zone droite du terrain et aller bien haut sur le terrain. Il participe autant en marquant des buts qu'en faisant des passes décisives. Non, vraiment, ce serait une super recrue. Et Kim Meunier, ben, il me semble qu'on cherche un défenseur central axe gauche. Il semble aussi qu'il joue à ce poste. Donc, en plus, tu peux former une défense avec Kim Meunier et Skriniar, vu que Skriniar arrive. Non, en soi, ce serait de très très bonnes idées, tu vois.
Ouais,
Je sais
on sait l'amour qu'il porte à De Laurentiis.
que. Oui, mais il a une clause. Kim Meunier a une clause. Et il faut utiliser ce peu de temps pour exploiter la clause. Moi, j'ai dit qu'il ne faut plus négocier avec De Laurentiis. S'il y a une clause, tu ne négocies pas avec De Laurentiis. Attention. Mais très bonne mémoire. Très bonne mémoire.
Ok, les gars, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous fait chier que Manchester City a gagné la Ligue des Champions avant le Paris Saint-Germain ou ça vous fait ni chaud ni froid? Vas-y, tonton.
Alors, c'est ça, j'aime bien. On m'a déjà dit, ouais, mais t'es supporter du PSG, Manchester City, c'est des rivaux, tu dois pas les apprécier. Je suis Qatari. Je demande, hein, parce que c'est le Qatar qui est ennemi avec les Émirats Arabes Unis, si j'ai compris. Je vois pas en quoi, moi, en tant que supporter parisien, je suis concerné par ça, en fait. Donc, moi, j'ai pas d'affect pour eux, je suis pas non plus anti-eux. Ils ont gagné, ben écoute, j'ai pas sauté au plafond, mais j'étais pas non plus en train de me dire, oh mon Dieu, le rival, Manchester City a gagné et on voit le PSG. Ils ont mis plus d'argent que nous, ils ont mieux investi que nous, ils ont Guardiola, on a Galtier. À un moment, tu t'attendais à quoi?
Non, mais en vrai, en tant que supporter, vous deux, vous supportiez qui? Parce que moi, personnellement, j'ai pas de problème avec les Émirats, mais moi, j'étais pour l'Inter.
Bah, moi, personnellement, j'avais une petite préférence pour l'Inter, mais City a gagné et moi, ça m'allait très bien. Ils le méritent, en fait. Donc, pour moi, quand tu vois la saison qu'ils font, pour moi, c'est la meilleure équipe depuis 3 ans dans le monde. Et par rapport au projet de Guardiola, toute la cohérence qui a été mise en place, pour moi, c'est largement mérité. Donc, on va dire que le football a gagné, entre guillemets, hier soir. Je suis pas qatari, donc j'ai aucun problème avec ça. J'avais une petite préférence pour l'Inter, mais ça me dérange absolument pas. Manchester City l'a pas volé, donc c'est un très beau champion, bravo à eux. Et puis c'est tout. Nous, Manchester City n'est absolument pas un rival du PSG, donc je vois pas pourquoi on aurait les boules que Manchester City l'a gagné avant nous. Et au contraire d'ailleurs, puisqu'on en parlait, ça pourrait vexer les Qataris et donc peut-être qu'on se reconcentrerait plus sur le sportif et qu'on irait chercher enfin une Ligue des Champions, parce qu'il serait peut-être temps. Et juste pour répondre vite fait aux commentaires de Malcolm Marc, qui nous dit qu'il faut redescendre un peu sur Terre et qu'on se voit trop beau parce que Barella et Gundogan, etc., n'ont rien à faire dans notre bourbier. On n'a jamais dit le contraire, mais simplement, si on est intéressé par ces joueurs, est-ce qu'on les veut? Bah ouais, on aimerait bien avoir ces joueurs-là, en fait, c'est tout, mais on n'a jamais dit le contraire.
On n'a jamais dit qu'ils étaient signés d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas où c'est que tu te renseignes, mais
Et puis on est
ne nous
les
associe
premiers
pas
à
aux
parler de
insiders, s'il
bourbier,
te plaît.
donc.
Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est peut-être quelqu'un qui est nouveau dans l'émission et qui n'a pas l'habitude de nous regarder, tu vois. Donc,
Là,
là-dessus, pas de souci.
Malcolm, il est là
Non, je
tout le
crois pas.
temps.
J'ai déjà vu ce mec. Ouais.
Ok.
Oscar.
On va parler d'un mec qui vient de
Ouais.
Bondy. et qui a dû regarder la finale hier soir. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Parce que... Après, moi, je ne pense pas qu'il va le prendre, mais Haaland, il est bien positionné dans le Ballon d'Or. Mais est-ce que Kylian, après hier soir, vous pensez que dans sa tête, il est prêt pour se venger l'année prochaine? Est-ce que là, vous pensez qu'il a le seum intergalactique et que là, il a mal pris ce qui s'est passé hier soir? Vas-y, Rico.
Non, je pense pas parce que bah, il sort quand même d'une deuxième finale de Coupe du Monde d'affilée avec un triplé en finale. Maintenant, il sait aussi que son Paris Saint-Germain, et je pense que tout le monde sait que son Paris Saint-Germain est largement inférieur à Manchester City, que ce soit l'effectif, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le projet. Donc, c'est tout à fait normal de voir un Haaland la remporter dans ce Manchester City-là. Maintenant, je pense qu'il a quand même envie effectivement de la gagner, puisque c'est un des trophées majeurs qui lui manque. Et je pense qu'il sera attentif au projet parisien forcément l'année prochaine et dans les futures années pour prolonger ou pas, et peut-être partir du coup dans un autre club pour la gagner, parce qu'on sait qu'il a envie de la gagner forcément. Maintenant, pour le Ballon d'Or, on va pas se mentir, ça aurait été déjà très compliqué, même avec ce triplé et en ayant marqué en finale. Mais alors là, le fait qu'en demi-finale, on l'ait pas trop vu et qu'en finale, il ait été absent. Pour moi, Haaland, même s'il pourrait le mériter, il remportera pas le ballon d'or.
Autant.
Je suis pas tout à fait d'accord avec Rico, dans le sens où...
Et juste pour finir, par rapport à Haaland,
Vas-y.
il y a aussi le fait qu'ils vont se partager les points forcément avec De Bruyne et que ça va profiter à Lionel Messi.
Ça, oui. Là où je suis pas tout à fait d'accord, Mbappé et Haaland, pour moi, c'est un peu le Messi CR7 de la nouvelle ère. Je pense qu'ils ne se détestent pas, hein, ils n'ont rien l'un contre l'autre, mais il y a une rivalité. Et là, tu vois, Mbappé, bah, là, il a vu Haaland gagner la Ligue des Champions. Moi, je pense que ça ne lui a pas rien fait. Moi, je pense qu'en termes d'ego, ça lui a fait quelque chose. Il se dit, lui, il a déjà gagné sa Ligue des Champions. Moi, c'est le trophée que je veux et qui me manque. Alors, il n'en fait pas une obsession. Hein. Bon, Mbappé a dit, j'en fais pas une obsession, je ne suis pas obligé de la gagner. Au fond, il n'a pas tort. Seulement, moi, je ne crois pas au fait que ça ne lui ait rien fait. Moi, je pense qu'il y a quand même ce petit truc de, bah, c'est mon rival pour le Ballon d'Or. Et là, quand même, même s'il va partager les points avec bah, peut-être Kevin De Bruyne et que ça peut lui coûter au Ballon d'Or. Lui, il vient de faire le triplé, là, donc il est beaucoup plus cohérent pour être Ballon d'Or que beaucoup dans la concurrence. Et le fait qu'il ait déjà gagné cette Ligue des Champions, mais il a une Ligue des Champions d'avance. Et dans le parcours à la fin des carrières, ça va compter. Et Mbappé, du coup, il va se dire, il va falloir que je la gagne vite pour pas prendre de retard. Parce que Manchester City, là, en gagnant la Ligue des Champions, en faisant un nouveau système et une mise à jour dans le foot encore, bah Guardiola, il va faire quoi? Il va construire son effectif autour de son nouveau dispositif parce qu'il y a des joueurs qui vont quitter ce club aussi cet été, il y en aura pas mal. Donc il y a possibilité que Haaland il la ressoulève avant Mbappé, avant qu'Mbappé l'ait soulevé une fois. Et ça, ce sera encore pire pour lui. Donc Mbappé, je pense qu'il va sérieusement réfléchir à se dire, ben moi, il faut Haaland, en un an, il a fait un choix de carrière cohérent, il a soulevé sa LDC. Donc moi, si je veux gagner ma Ligue des Champions, faut que je fasse aussi un choix cohérent. Donc du coup, je pense que lui, il va méditer là-dessus aussi. Donc, je te dis pas que ça remet complètement en cause son investissement au PSG pour la saison prochaine, mais ça va le faire réfléchir pour sûr.
C'est sûr, je te rejoins là-dessus. Je pense que il va peut-être. Parce que je vois, il y a plein de gens qui étaient plus ou moins sûrs qu'il allait reprolonger derrière. Je pense qu'il y a moyen qu'il reconsidère la suite de sa carrière. Et même si le Real ne pourra pas atteindre l'offre que le Paris Saint-Germain va lui faire, mais je pense qu'il y a moyen qu'il reconsidère et qu'il se dise je vais peut-être partir au Real. Et justement, c'est la transition parfaite pour la dernière question de ce live. Est-ce que vous pensez que sur les 5-6 ans à venir, on ne part pas sur un grand duel en Ligue des Champions où City et le Real vont se partager la Ligue des Champions, surtout si Mbappé y va et qu'on aura la rivalité Haaland-Mbappé plus City-Real? On ne sait pas si par exemple Zidane il revient au Real, ce sera Zidane versus Guardiola, Haaland versus Mbappé, tous les cracks que le Real ont acheté encore avec Bellingham, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est les deux équipes qui vont se partager un peu la Ligue des Champions pendant 5-6 ans? Est-ce qui voudrait dire que le Paris Saint-Germain resterait encore 5-6 ans dans l'inconnu du football européen? Voilà, parce qu'on n'aura aucune ligue de palmarès dans la Ligue des Champions. Vas-y, tonton.
Ce serait quand même sacrément manquer de respect au Bayern Munich, à Liverpool, à Manchester United, à Arsenal, à Newcastle, qui ont tous des projets qui sont crédibles, qui se reconstruisent bien. Aujourd'hui, le foot, c'est plus comme en 2010 où tu as le Barça et le Real qui se battent et un troisième qui essaye d'exister. Je veux dire, aujourd'hui, il y a entre 7 et 8 clubs qui ont des projets cohérents, tu dis dans les 5-6 prochaines années. Donc ça veut dire qu'il y a des clubs qui ne se sont pas forcément qualifiés pour la Ligue des Champions cette année, mais qui peuvent y revenir dans les prochaines années. Je pense au projet de Chelsea qui, s'il décolle et s'il fonctionne, peut être aussi un projet qui fait mal. Moi, je pense que tout simplement, en fait, c'est trop s'avancer que de dire ça. Parce qu'il y a d'autres projets qui peuvent fonctionner, il y a d'autres projets qui peuvent être très, très bien enclenchés dans les prochaines années. Et il y a trop d'incertitudes dans le foot. Qui pouvait prévoir que City allait gagner sa première Ligue des Champions cette année? Personne. On pouvait penser qu'ils allaient encore craquer mentalement comme les éditions précédentes, alors qu'au final, Manchester City, ils sont très forts. Et peut-être qu'il a mérité de la gagner bien avant. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est pas parce que Manchester City vient de gagner sa première Ligue des Champions et a eu son déblocage que pour moi, faut enterrer tous les autres comme s'ils n'avaient pas de vécu dans cette compétition. Il y a quand même énormément d'équipes qui ont plus de Ligue des Champions que Manchester City. Et il y en a quand même pas mal qui ont des projets aussi qui peuvent être cohérents et qui ont le droit d'exister au milieu du Real et de City dans les prochaines années pour moi, tu vois.
Ouais, ben, là, je te rejoins pas, tonton. C'est que City, ça fait 2-3 ans qu'ils se font éliminer. Et comme j'avais dit dans une vidéo que j'avais faite, City, il y a le problème de la gestion des émotions qu'ils ont eues sur les dernières années. Là, une fois que tu as déclenché ce truc où c'est plus ta première finale de Ligue des Champions, tu l'as déjà gagné, là, 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 ça va être un autre City dans ce genre de match. Parce que le City Real de l'année dernière, franchement, j'étais frustré parce que City, ils étaient complètement au-dessus. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont complètement. Il y a un moment dans le match. Je sais pas, ils ont lâché. Et tu te dis que tu verras probablement pas un City comme ça. Là, tu vas avoir un City un peu plus à l'aise, etc., qui va peut-être jouer, entre guillemets, au niveau du Real dans les grands matchs, tu vois. Rico?
Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Si on regarde les dernières années, on a eu beau avoir un Real dominant et un Manchester City dominant, surtout Manchester City, je crois que sur les 6 ou 7 dernières années, on n'a que des gagnants différents. Et pourtant, des gagnants comme Chelsea aussi, qui n'avaient pas de neuf et qui sortaient un peu de nulle part. Non, pour moi, c'est pas forcément ça. Alors oui, il y a ce déclic-là pour Manchester City. Maintenant, il y a des cadres qui vont partir. Il y a peut-être Guardiola aussi qui va partir dans 1 an ou 2. Il va falloir se reconstruire aussi derrière. Donc pour moi, qui domine dans les 5-6 prochaines années, je ne pense pas. Qui reviennent très souvent en quart, en demi et peut-être même en finale, oui. Mais de là à dominer et à gagner 2 ou 3 Ligues des Champions sur les 5-6 prochaines années, pareil pour le Real, j'y crois pas. Le Real, c'est pareil, ça se renouvelle. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a encore Bellingham, il va y en avoir d'autres. Il va falloir que le projet prenne, que les jeunes s'aguerrissent. Il y a Kane qui va devoir, s'il arrive, s'adapter, etc. Il y a le projet de Chelsea avec beaucoup de jeunes. Il y a le Bayern qui doit se renouveler. Il y a le PSG aussi qui doit peut-être construire quelque chose avec Mbappé ou se renouveler derrière quand Mbappé partira ou partirait. Pour moi, il y a énormément de clubs. Il y a les clubs de Serie A qui reviennent bien, le Milan AC, l'Inter. Pour moi, il y a Newcastle aussi qui arrive avec un projet cohérent. Il y a Arsenal qui sort aussi avec un bon jeu, qui peut à terme pouvoir rivaliser avec les meilleurs clubs aussi. Il y a tellement de vrais projets, de beaux projets, de grands joueurs un peu partout que pour moi, toutes les équipes peuvent gagner. Donc, je ne vois absolument pas dans ces conditions par rapport à City et le Real. Et avec tout ça, je ne vois pas le Real ou City dominer ces 5-6 prochaines années. Même s'ils seront présents souvent, évidemment, dans le dernier carré. Hein.
Je vous repose la question vraiment dans le contexte PSG parce que là, quand même, City sort d'une finale. L'année dernière, le Real est en finale et cette année, c'est demi-finale. Est-ce que vous voyez le PSG, même avec des recrutements cet été? Parce que moi, personnellement, je vous dis la vérité. Moi, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire je suis pas supporter. Là, 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 là. Moi, je suis un mec, j'ai les pieds sur terre, je suis réaliste. Moi, le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2020, c'était au-delà de ce que j'attendais du club. Bah, on a eu un parcours favorable, donc ça a aidé aussi. Mais moi, je ne vois pas le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions dans les 5 prochaines années. Et dans les 5 dernières années, je ne le voyais pas non plus. Et même avec le recrutement qu'on va faire cet été, il y a tellement de choses à régler que je ne vois pas le Paris Saint-Germain prendre la LDC avant dans une compétition où il y a City et le Real si on doit tomber sur eux. Parce que comme tu as vu, le Real, on a été plus fort qu'eux. Au final, allez, vous savez ce qui s'est passé. Je vois pas comment les joueurs ils vont passer ce cap. Et genre, entre guillemets, mentalement, dans les grands matchs, arrêter de faire ça parce qu'on va pas se mentir, ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Tu as l'impression que c'est chaque année, il va se passer la même chose. Donc il y a le problème mental, il y a le problème qualité des joueurs, il y a le problème profondeur de banc, il y a le problème coach, il y a le problème cohérence direction sportive. Avec le coach, il y a le problème Qatar avec le coach et le directeur sportif. Il y a beaucoup trop de choses qui qui font que ce club, pour moi, même si je l'aime depuis 20-30 ans, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je ne vois pas ce club gagner avec des champions dans les 5-6 prochaines années. On a beaucoup, beaucoup trop de retard. On est passé à ça, grâce au Covid, on est passé à ça. Parce que vous pourrez toujours me dire que c'est une finale, allez, je suis d'accord avec vous. Mais quand tu rencontres Dortmund, Leipzig, Atalanta, je suis désolé, t'es le Paris Saint-Germain, t'es censé les battre. Je veux bien que pas cracher sur ce qu'on a fait, mais c'est des clubs qu'on est censé battre. Donc pourquoi pas une année où on a un parcours aussi favorable, peut-être la gagner, mais le Covid, c'est une fois tous les 100 ans, donc ça n'arrivera pas forcément dans un avenir proche.
Non, mais moi, personnellement, je partage totalement ta vision. Là-dessus, on est d'accord. Et ce n'est pas pour moi être pessimiste, c'est être réaliste, tout simplement. Maintenant, pour moi, ton argumentaire est valable pour les 2-3 prochaines années. Si on arrive à reconstruire quelque chose de cohérent, réussir à pouvoir, l'année prochaine, par exemple, faire un quart ou une demi, ce serait ouf de faire une demi, mais au moins déjà un quart et s'en sortir lamentablement. L'année d'après, peut-être encore un quart, une demi. Et après, dans 3 ans, bah, peut-être une finale. Déjà, c'est déjà plus cohérent. Donc, tu vois, pour moi, en fait, tes 2-3 prochaines années, on ne la gagnera pas. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Il y a trop de problèmes. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, dans les 5-6 prochaines années, c'était le sujet initial, dans les 5-6 prochaines années, c'est quand même long, 5-6 ans. Et du coup, quand tu regardes l'année où on était tous d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain aurait dû prendre cette Ligue des Champions avec Zlatan quand on se fait sortir face à Manchester City, je crois que c'est 2015. Quand tu vois l'état du Paris Saint-Germain en 2010, donc 5 ans avant, qui aurait pu se douter que 5 ans après, en 2015, on se retrouve à être un favori de Ligue des Champions et à normalement passer City et à être l'année où on la gagne avec une équipe pareille. Jamais de la vie, en 2010, on pense qu'en 2015, on en serait là. Et pourtant, il y a eu énormément de changements et il y avait tout à refaire. C'est encore plus que maintenant. Il y avait tout à refaire. Il y avait tout même à faire. Et on l'a fait et au final, on était un des favoris. Donc pour moi, dans les 5-6 ans, c'est largement faisable, même si aujourd'hui, en étant réaliste, effectivement, c'est dur à imaginer. Mais 5-6 ans, c'est très long. Et à partir du moment où on fait un travail, une base qui est cohérente dans les prochaines années, je pense qu'à terme, dans 2, 3, 4 ans, on pourrait être un des favoris de la Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir que le travail soit cohérent et qu'on laisse travailler les hommes avec un travail de qualité, évidemment. Mais pour moi, dans les 5-6 prochaines années, c'est possible. Après, à terme, dans les 2-3 ans, non.
Bah, moi, pour répondre, c'est il y a trop de facteurs en fait pour déterminer et s'amuser à faire les médiums, dans le sens où tous les champions qui gagnent la Ligue des Champions ne sont pas des champions mémorables qui ont produit du jeu et qui ont mérité de gagner. Je veux dire, il y a toujours un facteur. Manchester City, ils affrontaient qui hier? L'Inter Milan, on est d'accord, ils n'ont pas affronté le Bayern, ils n'ont pas affronté le Real Madrid, ni Barcelone, ni Liverpool. Ils ont affronté l'Inter Milan.
Ils les ont éliminés avant, t'inquiète.
attends. L'Inter Milan, ils ont eu qui, s'il te plaît, sur leur parcours, Nyx?
Oui.
Mais à un moment, je veux dire, le tirage, on parle du tirage du PSG pour le Covid, ok, parlons du tirage de Chelsea aussi quand ils gagnent la Ligue des Champions en 2021, l'année suivante. Je veux dire, à un moment, il y a trop de facteurs. Le facteur tirage, il existe. Tu peux gagner la Ligue des Champions comme le Real Madrid l'an dernier en ayant gagné tous les gros et l'emporter quand même, ou même comme Manchester City cette année en ayant un parcours de Golgoth et en ayant défoncé tout le monde. Mais tu peux aussi gagner la Ligue des Champions parce qu'il y a un facteur chance. Tu as eu un peu de chance au tirage. L'arbitrage, bah, il est un peu moins sévère que d'habitude. Parce que Manchester City, on aime bien dire qu'ils ont mérité. Par contre, c'est comme toutes les équipes, il y a un facteur chance-arbitrage à un moment. On peut parler de Ederson qui a complètement démonté Werner en dehors de sa surface et c'est Werner qui prend jaune. Si Ederson il prend un rouge à ce moment-là en 8e de finale, est-ce que Manchester City la gagne cette année? Non. Et c'est un facteur qu'on ne prend pas en compte. Donc à un moment, il y a trop de facteurs pour pouvoir dire « Ouais, bah, le PSG, c'est sûr qu'ils vont la gagner. Le PSG, bah, c'est sûr qu'ils ne vont pas la gagner. » Et quand tu prends tous les facteurs, bah, il y a des gagnants qui la méritent, il y a des gagnants qui ne la méritent pas. Tu peux avoir fait des super projets et ne jamais la gagner. Une petite dédicace à Arsenal en 2006 qui s'est fait troncher par Barcelone. Est-ce que le Arsenal de Arsène Wenger ne méritait pas cette Ligue des Champions? Non, et pourtant, ils n'en ont jamais eu. Et il y a des clubs qui font bah, comme Chelsea, au hasard, ils ont dépensé 300 millions sur le mercato en un été, ils dégagent Lampard, Tourelle arrive par hasard parce qu'il est viré à Noël par le PSG, il n'a même pas le temps de construire son effectif, en 6 mois, il gagne la Ligue des Champions. Il y a trop de facteurs pour une Ligue des Champions, et c'est trop réducteur de dire on va la gagner dans 5 ans, c'est sûr, on va la perdre dans 5 ans, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne me prononce pas, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui sont déterminants dans cette Ligue des Champions pour la gagner ou la perdre.
Juste pour conclure, parce qu'on a 59 minutes, ça y est, on va clôturer. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alad qui dit que c'est pas City qui a gagné, c'est l'Inter qui a perdu hier soir?
Bon, l'Inter avait peut-être un petit peu mieux à aller chercher, avec 2-3 coups un peu mieux joués, mais bon, City semblait quand même au-dessus, et vu ce qu'ils ont pratiqué globalement dans la saison, je pense que l'Inter était quand même en dessous de City. Ils auraient pu, c'est une finale, donc tout est possible, mais je pense que tu joues cette finale 10 fois, Manchester City l'emporte 7, 8 ou 9 fois, donc pour moi, il n'y a pas vraiment débat.
Ouais, non, moi, pour répondre... Vas-y, vas-y, si tu veux, Nyx, vu que d'habitude, tu parles pas trop.
Non, non, je disais, je suis plutôt d'accord. Par contre, spécial dédicace à Dumfries. Tu as tué ma soirée d'hier soir. T'es dégueulasse. T'as tué ta route contre-attaque. Je suis pas pour l'Inter, mais franchement, je serais pour l'Inter. Je te croise dans la rue. Je t'insulte, mon gars. Vas-y, tonton.
Bah, moi, pour répondre à Alan qui dit que c'est plus City qui a pas gagné et l'Inter qui a perdu... moi je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où bah, déjà City n'a absolument pas été au niveau qu'ils ont montré depuis les 4 derniers mois dans leur 3-2-4-1. Ce n'est pas cette équipe, je suis désolé hein, mais moi j'ai pas reconnu l'équipe qui a marché sur Arsenal, sur le Bayern et sur Liverpool, j'insiste là-dessus, et même sur le Real Madrid en demi. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de joueurs n'étaient un peu comme ça sur le terrain. On peut parler de John Stones qui a joué beaucoup plus bas qu'à son habitude, on peut parler de Kevin De Bruyne blessé. Voilà, je ne m'exprimerai pas plus sur cette théorie. L'Inter a fait le match qu'il devait faire. L'Inter a fait le meilleur match qu'il pouvait faire. Défensivement, ça a été très costaud, il faut le dire. L'équipe a très bien taffé sans ballon. Mais à un moment, il faut le souligner aussi, c'est une équipe qui a essayé de proposer du jeu contre une équipe qui a essayé de défendre un maximum et en misant plus sur le jeu sans ballon qu'avec ballon. L'Inter a eu beaucoup de contres. L'Inter s'est saboté et je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, un Manchester City Prime, si tu enlèves l'effet Ligue des Champions et que tu dis que c'est un match de PL au lieu d'être un match de finale de Ligue des Champions, cet Inter-là, il prend la foudre. Mais sans souci. Donc, je pense que oui, l'Inter aurait pu mieux faire et l'Inter s'est bâclé. Par contre, Manchester City aurait pu largement jouer beaucoup plus fort et mettre une grosse raclée à cette équipe. Aussi.
Ok, bah, merci à tous. Je vois, vous êtes 192. Si vous nous aimez bien, parce que je sais que peut-être que vous nous regardez, mais vous ne nous aimez pas. Mais si vous nous aimez bien, juste mettez un like. Vous voyez, ça aide un peu la chaîne à ramener plus de monde. Comme ça, après, on rigole avec plus de gens et c'est plus sympa. À noter que vendredi, je dis ça, mais j'espère ne pas porter l'œil. Normalement, je ne voulais pas l'annoncer pour le faire en surprise. Mais c'est vendredi, on va faire un live un peu spécial. On va faire un live un peu spécial. Genre, donc spécial. Soyez là. Soyez là, je pense que ça va être vers 19h, vendredi 19h. Donc voilà, voilà, salut à tous, salut Paris. Ici c'est Paris Central, on a passé une bonne heure avec vous. Vous avez la chaîne de Tonton en commentaire, vous avez la chaîne de Rekoma aussi, vous avez juste à taper Rekoma sur YouTube. Merci les gars, merci Paris, merci à tous ceux qui nous regardent.